Rendez-vous sur le stand des concerts de Radio France. Une offre spectaculaire pour la saison 2013-2014 vous y attend.
Pour organiser toute votre année de sortie en un week-end, rendez-vous à Culture au Quai, Quai de Loire, Paris 19e.
Info sur concert.radiofrance.fr.
France Inter. La voix est libre.
Là-bas, si j'y suis, c'est avec Daniel Mermet et c'est maintenant sur Inter.
Oui, bonjour Daniel. Merci pour l'émission sur Hervé Kempf, qui a pris une décision courageuse et extrêmement honorable. Mais au-delà de ce point, c'est l'ensemble de la ligne éditoriale du Monde qui est en cause. Je ne suis abonné au Monde que depuis 1968 et au Diplo depuis une quinzaine d'années. Et plusieurs fois, ces derniers mois, j'avais envie de résilier mon abonnement au Monde, mais que dire d'autre ? Que dire d'autre ? Voilà, merci, c'est Philippe de l'île d'Ouessant. Au revoir.
Je viens de m'abonner au satellite, c'est extraordinaire le nombre de chaînes qu'il y a là-dessus. Alors il y a le pire et le meilleur, hein. Là, il y a des chaînes people absolument atroces. Là, par exemple, il y a un documentaire intitulé « L'enfant roi de William et Kate ». Voilà, un documentaire d'une heure sur un gosse né il n'y a même pas deux mois. Ça menace d'être passionnant. C'est quelle chaîne ça ? C'est People Machin, c'est... Ah mais non, dis donc, c'est France 3, je n'en reviens pas. Donc c'est à ça que sert ma redevance télé. Donc on me rabote mon là-bas si j'y suis, et on passe des merdes genre coin de rue Imagimonde sur ma télé à moi que je paye avec mes impôts. Eh ben, peut-être raboter ma feuille d'impôt moi la prochaine fois.
Alexandre Adler, il y a une dizaine de jours sur Europe 1, condamnait fermement Bradley Mannings et le qualifiait de traître. Son vis-à-vis lui objecte que tout de même, Bradley Mannings a fourni à Wikileaks une vidéo où l'on voit des soldats américains du haut d'un hélicoptère abattre froidement 10 civils innocents. Là, Alexandre Adler, totalement déconfit, se voit obligé d'avouer qu'il n'a jamais entendu parler de cette vidéo. Le monde entier a vu cette vidéo. Le simple Pékin Base le voir 4 fois à la télé, 5 fois sur Internet. Mais Alexandre Adler, lui, ne l'a jamais vu. Rappelons qu'Alexandre Adler est présenté régulièrement par ses collègues comme le plus grand spécialiste français, peut-être même européen, de la géopolitique.
Oui, mais reconnaissons que Alexandre Adler le reconnaît. Il n'y connaît rien. Merci pour vos messages, chers AMG. Aujourd'hui, manif sur les retraites. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? On fait grève. Aujourd'hui, dans cette journée de mobilisation, ou bien est-ce qu'on parle des retraites ? Et finalement, on a décidé de parler des retraites, de parler de la retraite et de retrouver Bernard Friot. Bernard Friot, ça fait pas mal de temps qu'on le connaît à la base, j'y suis, et c'est un chercheur, sociologue, qui, depuis des années, propose des analyses différentes sur le travail, sur le salaire, et aujourd'hui, on va le retrouver sur le thème des retraites. Il remet en perspective cette conquête sociale qui est la continuation du traitement. Il remet en cause la valeur travail comparée à l'emploi et il propose des réformes radicales et possibles, ou qui semblent possibles. Donc c'est une réflexion de fond sur la retraite, l'histoire des retraites et des idées originales sur ce grand moment, évidemment, de la vie qui ne peut être considérée que seulement comme un moment de loisir qu'on aurait enfin mérité. Alors l'entretien avec Bernard Friot est entrecoupé de conférences gesticulées de Franck Lepage, qui s'est inspiré du travail théorique, un peu aride parfois, de Bernard Friot, de façon à essayer de faire passer, de faire comprendre par un jeu théâtral, disons, c'est les idées de Friot. Voilà notre thème du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, bonjour à toute l'équipe. J'appelle parce que là, je viens d'écouter Jean-Claude Mailly, puis les infos sur la grève, et que ça prend pas, c'est incroyable quoi. nos amis au Portugal, bah, quand c'est la grève générale, ils la font, quoi. Et même ceux qui ne peuvent pas prendre un transport pour aller à la grève à Lisbonne, dans la capitale, mais ils étaient solidaires, ils n'avaient même pas de thunes, mais ils ne sont pas allés au boulot. C'était une grève totale. Ici, on n'arrive même pas. Et pourtant, c'est un bordel, parce que tout le monde tape sur la CGT au Portugal, et pourtant, ils arrivent à organiser tant bien que mal. Quand il y a un appel à la grève, ils y vont, quoi. Là-bas, ils sont dans une sacrée merde, les ouvriers, ici aussi, mais apparemment pas autant qu'à Lisbonne. Là-bas, au Portugal, en Grèce, en Espagne. Des putains de grèves incroyables. C'est incroyable, quoi. Ça me rend malade. Malade.
Oui, bonjour. Je vous appelle pour vous signaler le repère de Bordeaux de mercredi 11. C'est à 19h. Et le thème, c'est « Habiter ensemble, mais pour vieillir autrement ». C'est l'association Bobo Yaka, des hommes et des femmes qui ont entre 55 et 70 ans, qui ont fait le Paris de vieillir ensemble et autrement, qui viendront expliquer pourquoi, comment et en quoi ça leur apparaît intéressant pour l'avenir. Alors en fait, c'est pas des petits vieux qui veulent attendre la mort, non, pas du tout. Ils veulent faire ça pour rester responsables de leur vie, pour développer des solidarités, repenser la transmission, les échanges intergénérationnels, enfin que des belles valeurs, quoi. Donc c'est mercredi à Bordeaux-Bacalan, c'est au bar de la Marine à 19h.
Pour ceux qui s'en inquiètent, ceux qui travaillent dur, ceux qui ne s'inquiètent plus pour eux, mais pour les autres, ceux qui cherchent un travail et ceux qui en ont déjà un, ceux qui ont commencé à 16 ans et ceux qui s'y mettront à 27. Pour ceux qui ne veulent pas s'arrêter là, ou celles qui veulent juste faire une pause. Et même pour ceux qui ne seront concernés que dans 50 ans, nous devons trouver des solutions pour sauver nos retraites et réussir une réforme juste.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Bernard Friot. L'enjeu des retraites.
Flight number 2, arriving from New York.
Bernard Friot, vous êtes sociologue. On va parler, donc, on a compris, des retraites. Racontez-nous un petit peu, à grands traits, l'histoire des retraites. Comment on en est arrivé là? Ça n'a pas toujours été le cas. On sait bien qu'autrefois, il n'y avait pas de retraite.
Alors la retraite est née sous sa forme actuelle, je dirais que son début, c'est une loi de 1853, donc ça fait plus de 150 ans, dans la fonction publique, qui dit que la retraite, c'est la continuation du traitement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de cotisation dans la fonction publique d'État, qu'il n'y a pas de
caisse. La retraite, c'est la continuation du traitement.
Continuation du traitement.
Pour la fonction publique.
Pour la fonction publique. Pour les autres salariés, on n'envisage même pas qu'il puisse y avoir une retraite comme continuation du traitement. Ça ne peut être que la contrepartie d'une épargne. C'est pour ça que toutes les premières institutions mises en place sont des institutions à base d'épargne. Jusqu'aux assurances sociales de 1930, qui créent une cotisation vieillesse obligatoire pour ceux dont le salaire est inférieur à un plafond d'affiliation. Et cette cotisation va à un compte épargne individuel. C'est Vichy qui, en 1941, va geler les comptes épargne et affecter la cotisation en répartition immédiatement à une allocation de vieux travailleurs salariés, la VTS.
La répartition, c'est Vichy ?
La répartition, c'est Vichy, oui, bien sûr. Oui.
Et c'est ce qu'on veut sauver ? Aujourd'hui, la répartition.
On veut sauver, justement. C'est une. Non, mais attendez. C'est pas parce que initialement l'acte est de Vichy que la chose n'a pas bougé dans son sens. Parce que ce que fait Vichy, il finance un forfait, un minimum vieillesse, pour faire face à la pauvreté de masse que génère la guerre. À la libération, le principe de la répartition est maintenu, mais pour financer précisément une continuation du salaire. Et si on prend ce qu'on appelle le taux de remplacement, c'est-à-dire le rapport entre la première pension nette et le dernier salaire net, hein, le taux de remplacement pour la dernière génération qui ait pris sa retraite avant les effets de la réforme, c'est-à-dire les salariés qui sont nés en 1930 et qui prennent leur retraite donc entre 1990, ils ont 60 ans, et 95, ils ont 65 ans. Nous avons un taux de remplacement pour une carrière complète, c'est-à-dire pour 150 trimestres validés à l'époque, de 84% en moyenne. 84%. Donc on a un taux de remplacement considérable qui va d'ailleurs progressant de 45 à ces années-là, c'est-à-dire les années 90. C'est ce mouvement-là de poursuite du salaire que la réforme tente d'interrompre.
Mais alors, si on vous écoute, il ne faut rien réformer du tout, il faut laisser les choses, tout va bien.
Faisons progresser. Faisons progresser, bien sûr qu'il faut toucher. Parce que la retraite moyenne des femmes est à 1100 euros en tenant compte de la reversion. Elle est à 1600 euros pour les hommes. Nous sommes à des niveaux de retraite qui sont tout à fait insuffisants, correspondant d'ailleurs à des niveaux de salaire tout à fait insuffisants. Il faut savoir que le salaire médian, celui qui partage en moitié, les salaires du privé, il est à 1600 euros. Seulement 10% des salaires sont supérieurs à 3000 euros en France. Donc on a des salaires très bas qui se traduisent par des pensions basses. Bien sûr qu'il faut améliorer le taux de remplacement, c'est-à-dire passer à 100%. Pourquoi est-ce qu'un retraité ne percevrait pas la poursuite de son salaire? Pourquoi s'arrêter à 84%?
Eh bien parce qu'on a aujourd'hui, dans le rapport entre les actifs et les inactifs, et les retraités, on passe de 2 actifs pour 1 retraité en l'an 2000, et on va passer bientôt, c'est-à-dire en 2040, à 1 actif pour 1 retraité. Et donc c'est impossible. Et ce que vous n'avez pas compris, cher Bernard, c'est que ça n'est pas une affaire de droite ni de gauche. J'ai l'impression que vous êtes plutôt à gauche qu'à droite. Comme ça, c'est une intuition. Mais c'est une affaire arithmétique. Donc ça, l'arithmétique, c'est la vérité. Vous êtes un scientifique et vous ne pouvez que vous plier face à cette arithmétique.
Bien sûr, l'arithmétique de Café du Commerce. Hein. Chacun comprend que nous travaillons de moins en moins pour produire de plus en plus, et que la publicité même du gouvernement, d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle dit? Elle se mélange complètement les pieds dans le tapis. Elle nous dit, il y avait 4 actifs pour un retraité en 1960, il y a 2 actifs pour un retraité en 2010, il y aura un actif pour un retraité en 2050, donc il y a problème. Ben, on voit bien l'absurdité. Nous sommes passés de 4 actifs pour un retraité en 1960 à 2 actifs pour un retraité aujourd'hui, sans aucun problème.
Ben si, il y a un trou.
Non, il n'y a pas
de
trou.
Il y a un déficit.
Mais non, il n'y a pas de trou. Mais non, bien sûr que non. Alors là, si vous prenez les comptes de la protection sociale depuis 1945, lorsqu'ils sont définitifs, c'est-à-dire 4 ans après l'exercice, on a globalement, sur l'ensemble des 70 ans, on a un résultat qui est peut-être légèrement positif. On ne sait pas parce que c'est des comptes qui sont juste à 3% près. Donc, si un excédent de 1 ou 2% peut être un déficit de 1 ou 2%. Mais de toute façon, nous sommes toujours dans des excédents ou des déficits de 1 ou 2% à comparer au déficit du budget de l'État. Ça n'a rien à voir. Nos institutions de sécurité sociale, ça je le dis avec fermeté parce qu'il y en a marre de ce prétendu trou de la Sécu, sont des institutions financièrement extrêmement saines. Extrêmement saines. Il peut y avoir des conjonctures dans lesquelles il y a un déficit, mais qui sont suivies de conjonctures dans lesquelles il y a un excédent pour la retraite. Par exemple, il y a eu des tas de phases excédentaires. Arrêtons d'introduire tout dans le débat public un prétendu trou de la Sécu. Cela dit, s'il y a un problème de financement, c'est parce que depuis 1996, le taux de cotisation ne bouge plus.
Patronale,
il y a un gel.
Patronale.
Il y a un gel, ben, le salarié aussi.
Alors, les retraites, c'est un peu la mère de toutes les batailles. Alors, pour l'instant, on vient de perdre une bataille. Est-ce qu'on a perdu la guerre? On va voir. Mais en tout cas, c'est une bagarre absolument fondamentale parce que c'est une bagarre idéologique. Ça n'est pas du tout un problème économique, du tout.
Conférence gesticulée de Franck Lepage.
C'est un problème
2010.
Culturel. C'est-à-dire qu'il faut absolument arriver à nous faire croire que la retraite, c'est un problème de solidarité entre les générations, ce qui est aberrant. Si vous prenez 10 secondes pour comprendre ce que c'est que le système, c'est pas aucun rapport entre des jeunes et des vieux. Aucun, rien. Le type a 59 ans qui travaille, il cotise, d'accord, il fait cotiser, donc c'est un vieux qui paye pour des vieux, d'accord, c'est pas bon. Et donc ils font une pédagogie gouvernementale absolument terrible et il faut absolument nous qu'on fasse une contre-pédagogie à ça. Alors vous rappelez peut-être, nous avons tous reçu, c'est pour vous dire à quel point ils mettent le paquet, du temps de Raffarin, nous avons reçu une lettre en notre nom propre. Bah, cette lettre, c'est une lettre avec un petit schéma. Sur le petit schéma, vous aviez 3 petits bonhommes qui payent pour 2 petits bonhommes, et on vous disait ça c'est aujourd'hui, et on vous disait mais en 2040, n'y aura plus que deux petits bonhommes, il va falloir payer trois petits bonhommes. Et on parlait de jeunes et de vieux, on ne parlait pas d'actifs et d'inactifs. Hein. Et, il y a trois jeunes pour deux vieux, et après il n'y aura plus que deux jeunes et il y aura trois vieux. Et là, moi, je me suis fait avoir. J'ai regardé le truc, j'ai dit, merde. C'est l'arithmétique. Puis là, je suis tombé sur le fameux Bernard Friot.
Bernard Friot.
Là, Bernard Friot, il m'a dit, mais t'es complètement con. Je dis, ouais, Bernard, d'où tu me parles comme ça? Donc, bref, Friot, il me dit, mais enfin, ça marche pas ton truc, là, de jeune et de vieux, réfléchis. Si tu suis le raisonnement de Raffarin, en 1945, il y avait, je sais plus, 15 millions, 20 millions de paysans pour en avoir 30 millions de Français, lui, en 45. Et puis, alors, comme on sait qu'en 2010, il n'y aura plus que 1,5 million, moins d'un million de paysans pour nourrir 60 millions de Français, on peut prédire une immense famine en 2010. Logique. Et puis là, j'ai une idée de génie. J'ai dit, ça marche pas ton truc. Qu'est-ce que tu fais des gains de productivité dans l'agriculture? Et là, il me regardait avec un petit sourire. Puis là, j'ai fait, oh le con. Mais qu'est-ce que je suis con.
Mais ouais, parce que ce que ne dit pas le petit dessin de Raffarin, c'est que les deux de 2040, ils produiront autant de richesses par rapport à ceux de 1990 que quatre travailleurs.
On appelle ça les gains de productivité.
La dernière fois qu'on a doublé le PIB en France, ça a mis 17 ans seulement. En 17 ans, on a doublé la richesse produite.
Ça serait faux s'il y avait une récession. Mais ils n'arrêtent pas de nous dire que la croissance sera là.
Eux, ils disent ça.
D'accord. Et si on prend les chiffres les plus pessimistes du Conseil d'orientation des retraites, c'est-à-dire 1,7% de croissance, on a un doublement du PIB. La question, c'est pas combien il y a de jeunes, combien il y a de vieux. On s'en fout. La question, c'est est-ce que ceux qui bossent là fabriquent la richesse suffisante pour payer ceux qui sont là. C'est la seule question qui va. La richesse sera-t-elle produite? Oui. Ou non.
Même s'il n'y a qu'un seul jeune pour financer tout le PIB, ça passe.
Selon vous, il n'y a pas de déficit du système de retraite.
Il n'y a aucun déficit structurel du système de retraite. Et si nous voulons assurer les déficits conjoncturels que nous trouvons, il suffit d'affecter une part minime de la croissance du PIB à une hausse du taux de cotisation patronale, ce que nous avons arrêté depuis 1996. Pendant 50 ans, de 1945 à 1996, vous avez eu une hausse permanente du taux. Il est passé de 8 à 26% du salaire brut. Et depuis 1996, nous sommes dans une espèce de tabou. Pas de hausse du taux de cotisation patronale. La hausse du taux de cotisation salariée serait tolérable, à condition, bien sûr, qu'il y ait une hausse du brut. Hein. Mais de toute façon, en absence de hausse du brut, la hausse ne peut être que du taux de cotisation patronale pour que les salariés récupèrent une partie de la croissance. La crise actuelle vient du fait de la modération salariale, comme on dit, qui s'est traduite par à la fois une faible progression des salaires, 0,5 à peu près pour 100 par an, alors que le PIB augmente de 1,5 par an, ça veut dire que les salariés ne récupèrent que le tiers de la croissance. Le reste va au profit. À cause également du gel du taux de cotisation patronale, qui fait que le salaire total, qui est le salaire direct plus les cotisations, n'augmente pas autant qu'il le devrait. La crise, elle vient de cela, celle qui a suscité la spéculation. Ça vient de ces profits générés par la modération salariale. Nous sommes aujourd'hui en train de nous voir imposer de payer le fruit de la modération salariale, précisément. C'est bien pour ça que la seule réponse par le haut à la crise actuelle, c'est d'augmenter massivement les salaires en augmentant le taux de cotisation.
Ah oui, vous êtes un révolutionnaire. Vous pensez qu'il faut augmenter au contraire les salaires?
Mais bien sûr, puisque la cause de la crise, c'est la modération salariale. Nous avons une baisse de 10 points des salaires dans le PIB qui s'opère dans la décennie dramatique des années 80. D'accord, et qui est resté. Nous sommes toujours à 10 points en dessous de ce que nous avions au début des années 80. Ces 10 points qui représentent quand même 200 milliards d'euros par an, sur un PIB de 2000 milliards, ils manquent et il faut les retrouver. Parce que cette insuffisante progression des salaires qui fait qu'il y a crise, c'est ça l'origine fondamentale de la crise.
Et le chômage là-dedans, quel est son rôle? puisque qui dit chômage dit moins d'emplois, donc moins de cotisations, y compris pour les retraites.
Oui, bien sûr, ça, bien sûr. Mais encore une fois, la question du chômage est absolument liée à celle des salaires. C'est celle de la place accordée aux salaires dans le PIB. Si on accorde plus de place, tout à la fois, on augmentera le nombre d'emplois et on améliorera les salaires. Donc ça, les deux choses sont absolument liées.
Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette histoire? Il y a un projet de réforme, mais on voit bien que derrière ça, il y a d'autres enjeux de nature politique et de nature idéologique.
J'ai présenté dès le départ un des enjeux fondamentaux, qui est de créer une masse de population en situation de faiblesse sur le marché du travail. Puisque, évidemment, l'objectif de la réforme n'est pas que nous travaillions plus, sur quels emplois? La durée du travail moyenne, elle diminue plutôt. Et c'est tant mieux, parce qu'encore une fois, nous travaillons de moins en moins pour produire de plus en plus. Donc, en aucun cas, il s'agit que nous travaillions davantage ou plus longtemps. Depuis 1993, hein, où les mesures d'augmentation des durées de cotisation sont censées pousser les gens à travailler plus longtemps, nous avons 17 ans de statistiques, il n'y a pas de prolongement de la durée d'activité. La cessation d'activité se fait toujours actuellement à moins de 59 ans. On est à 58 ans et 9 mois. En revanche, quel est le résultat de la réforme? C'est que la liquidation de la pension est retardée. Actuellement, il est à 61 ans et demi. Il y a déjà, en moyenne, près de 3 ans de no man's land où on n'est ni sur un salaire normal dans un emploi normal, ni retraité. Pour les femmes, c'est bien pire. Parce que les femmes n'ayant pas une carrière complète, beaucoup moins que les hommes, elles sont particulièrement victimes de la décote, qui est un truc monstrueux. Si bien qu'elles attendent, pour le tiers d'entre elles, elles attendent 65 ans. C'est vraiment scandaleux. Hein. Ou pendant ainsi actuellement 7 ans, nous aurions des femmes qui seront dans un no man's land. Alors qu'est-ce qu'elles feront? Elles vont redevenir les femmes de leur mari, selon un magnifique progrès social. Elles vont être vulnérables, tout simplement. Déjà actuellement, je crois 36% des femmes sont inactives lorsqu'elles liquident leur pension. Ça veut dire que, n'étant ni en retraite, ni dans un emploi normal, qu'est-ce qui va se passer? Et on a déjà la petite musique. Ah, mais il faut sauver cet emploi des seniors. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des emplois aidés. Les employeurs qui embaucheront un senior n'auront pas de cotisation sociale à payer pendant un an. Qu'est-ce qu'on nous refait, là? Et c'est pour ça que moi, je n'utilise jamais le mot senior. Je dis toujours vieux. Parce qu'il s'agit vraiment d'un retour des vieux. On nous fait le coup des jeunes. Avec le même résultat. À quoi sert une population qui est définie par une caractéristique biographique, l'âge, le genre, la nationalité, comme catégorie de l'action publique, eh bien, elle sert d'instrument de pression à la baisse sur les droits de tous. Parce que je crois qu'il faut parler de cette affaire et bien comparer la question des jeunes et la question des vieux. Parce que nous sommes vraiment en totale symétrie. À la fin des années 70, c'est là que la classe dirigeante a décidé de siffler la fin de la récréation et de reprendre les choses en main. Il s'agit en particulier d'interrompre la progression salariale qui s'observe.
Qu'est-ce que vous appelez progression salariale?
La part des salaires dans le PIB qui augmente. Ah. Il s'agit de l'interrompre, cette affaire. Et ça va être le cas, puisqu'aujourd'hui, nous sommes à 10 points de moins. Nous sommes passés de 70 à 60% des salaires dans le PIB. Comment faire? Il y a une pratique ancienne qui est une pratique de hausse constante du salaire d'embauche. Le salaire d'embauche, le salaire à 20 ans, à 25 ans, il augmente régulièrement pour entériner en quelque sorte l'amélioration de la scolarisation, de la certification et donc la reconnaissance d'une qualification supérieure aux jeunes. Vous voyez bien que cette hausse constante du salaire d'embauche en avale un effet de hausse constante de tous les salaires. Si l'on veut interrompre la hausse des salaires, il faut casser ce levier. Il faut casser le salaire d'embauche. Et pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On invente un bobard démographique. Comme aujourd'hui, nous avons inventé un bobard démographique sur deux actifs pour un retraité, en fait, etc., etc. Ce bobard démographique, c'est il y a des jeunes qui sont des pauvres jeunes, qui ont bien du mal. Un jeune sur quatre est au chômage. Et face à ça, mieux vaut un petit boulot que rien du tout. C'est un mensonge. Un jeune sur quatre est au chômage, c'est absolument faux. C'est un mensonge d'État qui a été martelé pendant des années. Nous avons un taux de chômage chez les 18-25 ans qui est de 25%. Mais un taux de chômage, c'est au numérateur les chômeurs, au dénominateur les actifs. Un taux de chômage, ça veut dire de 25%, ça veut dire que le quart des actifs est chômeur chez les jeunes. Mais quel est le taux d'activité des jeunes? 30%, 70% des jeunes sont à l'école. Donc un taux de chômage de 25%, ça veut dire que le quart de 30% des jeunes est au chômage. Le quart de 30%, c'est 7,5%, c'est 1 sur 12. C'est le poids du chômage qu'on trouve dans toutes les tranches d'âge. Il n'y a aucune spécificité du poids du chômage chez les jeunes. Et si on dit, bah oui, mais un taux de 25%, c'est quand même très élevé. Bien sûr que c'est très élevé. Mais qui est en emploi chez les jeunes de 18 à 25 ans? Ceux qui sont en échec scolaire, ceux qui ont de faibles diplômes. Donc ceux qui ont de faibles salaires. Et pour toutes les tranches d'âge, le taux de chômage dans les faibles salaires, c'est 25%. Il n'y a aucune spécificité du chômage des jeunes. On nous a inventé une génération, toujours ce vocabulaire générationnel, hein, qu'il faut combattre avec la plus grande fermeté, une génération qui serait une génération sans emploi, dont il faudrait sauver l'emploi. Et pour sauver l'emploi, qu'est-ce qu'on fait? On casse le salaire. C'est ce qui s'est fait. Moi, j'ai enseigné en IUT pendant une trentaine d'années. À la fin de ma carrière en IUT, nous sortions des jeunes à un salaire deux fois moindre que celui qu'ils avaient au début de ma carrière. Pour que l'on retrouve aujourd'hui, à 25 ans, le salaire de 75, toutes choses égales par ailleurs, il faudrait le doubler. Imaginez l'effet sur l'ensemble des salaires si le salaire à 25 ans était de 2000 euros et non pas de 1000 euros comme aujourd'hui. Donc, il s'agit d'inventer en permanence. Si on veut faire une pression à la baisse sur les salaires, ce qui est central dans le capitalisme, hein, eh bien, il faut en permanence qu'il y ait des réserves de manœuvre. Et actuellement, on est en train de créer, après la réserve jeune, on est en train de créer une réserve de main-d'œuvre. Ce sera les vieux, surtout des vieilles femmes d'ailleurs, entre 59 et 67 ans, ou 66 ans.
Qui seront obligés d'accepter n'importe quoi.
Qui accepteront n'importe quoi.
Comment c'est pensé ce que vous dites là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense ça comme
non.
Vous êtes en train de le
non.
faire?
Non, il n'y a aucun complot. Non. Toutes ces
ça
choses
marche comment quoi.
Toutes ces choses-là sont pragmatiques. Ah ben, il y a une dynamique du capitalisme qui est quand même la valeur pour l'actionnaire, qui suppose que la part qui va au salaire soit le minimum possible. Donc ensuite, dans cette logique-là qui est permanente, eh bien, ça dépend des opportunités. On croit le bobard démographique. On a cru qu'un jeune Socrate était au chômage. Si ça marche, pourquoi la classe dirigeante n'utiliserait pas cette crédulité? On est en train de croire qu'il n'y aura pas assez de travail, je ne sais pas quoi, en l'an 2050 pour payer les pensions. Il faut revenir là-dessus d'ailleurs. Hein, parce que cette crédulité-là, elle est quand même absurde. J'ai souligné la contradiction qu'il y avait dans le fait même d'écrire. Il y avait en 1960, 4 actifs pour un retraité, il y en a aujourd'hui 2 pour 1, il y en aura 1 pour 1 en 2050, donc il y a problème. Puisque nous n'avons eu aucun problème pour passer de 4 actifs pour un retraité à 2 actifs pour un retraité, parce que dans l'intervalle, entre 60 et aujourd'hui, le PIB a doublé. En 1960, nous consacrions 5% d'un PIB de 1000 milliards aux retraites. Restait donc pour les actifs le profit qui part en fumée, les investissements, restait 950 milliards. Je pars en euros d'aujourd'hui, hein, je suis en monnaie constante. Aujourd'hui, nous avons 2000 milliards de PIB, dans lequel nous attribuons 13% aux pensions. 260 milliards restent donc pour les actifs, l'investissement et le profit qui part en fumée, et qui est toujours fondamental et considérable, il reste 1740 milliards, 2000 moins 260, à comparer aux 950 milliards qui restaient dans la situation précédente. Quand nous avions 4 actifs pour un retraité, 4 actifs pour un retraité produisaient 1000 milliards, aujourd'hui 2 actifs pour un retraité produisent 2000 milliards, et en 2050, un actif pour un retraité produira 4000 milliards, c'est la projection du COR. Sur ces 4 000 milliards, il nous faudra, non pas, comme dit le COR, 15,5% aux pensions.
Le COR, c'est le Conseil d'orientation des retraites.
Voilà, c'est ça. Non pas 15,5% du PIB en 2050, il faudra beaucoup plus, parce que le COR raisonne comme si les réformes que nous subissons depuis 23 ans étaient éternelles. Évidemment que ces réformes, nous allons les abolir. Un pays de plus en plus riche ne va pas voir ses droits sociaux de plus en plus affaiblis. Ça ne marchera pas indéfiniment. Hein. Donc, nous allons abolir ces réformes. Et si on veut améliorer, passer à 60 ans, 100% du meilleur salaire pour tous, et porter au SMIC s'il est inférieur au SMIC, il nous faudra 20% du PIB, passer de 13 à 20%. Mais 20% d'un PIB 4 000, donc 800 milliards d'euros, à comparer aux 260 milliards actuels, ça laisse 3200 milliards pour le reste. Il n'y a aucun problème.
Système qui mène en bateau. pour plus de part de gâteau. Économie qui profite à ceux qui possèdent l'info. Assez de cadres fiscaux, stoppons les primes de départ touchées par les PDG et votées dans les directoires. Entreprise qui licencie pour des frais de personnel sur un site qu'on licencie tant qu'on rassure l'actionnaire. On s'assure d'avoir le ministère dans la poche. Coup de matraque sévère pour les quadragénaires sur la touche. Touche pas au capital, vise plutôt le travail. Délocalise à Taïwan où le taf s'avère pas mal. Que tes parents soient sur le carreau, ce n'est pas en soi un problème, un souci qui les taraude. Le tarot, c'est bien le smicard qui le paye, hein. Pour davantage de parler boîte vers d'autres parfums taillots. Les pots cassés, je pense que cela suffit, c'en est assez. À mon avis, nos vies valent plus que leurs profits. Tout ça casse des carrières, des postes donc des salaires. Ça n'a pas l'air, mais c'est le début de la grosse galère. Des gosses qui croisent leur père
sur le chemin des ascétiques.
Les jours passent toujours pas tard,
à force c'est pathétique.
Des millions d'actionnaires spéculent
pour un peu plus de fric.
La bourse casse la gueule,
c'est peut-être le déclic
d'un peu plus d'éthique, d'être un peu plus critique sur le soi-disant contrôle capricieux que les pouvoirs publics.
Alors, ce qui se passe dans votre raisonnement, Bernard Friot aussi, c'est que le retraité est perçu aujourd'hui comme une charge, comme un boulet, comme un poids mort, qui aura une petite activité, peut-être, comme ça, de bénévolat. Enfin, il est voué à, au mieux à faire son jardin, à faire des petits voyages et à préparer la visite des petits-enfants de temps en temps, quoi. Mais il est pris en charge, c'est une charge.
Non, là, c'est vraiment un point dont il faut se débarrasser dans nos représentations, parce que ce n'est pas la réalité, et c'est une représentation extrêmement mortifère. D'une part, quand même, après tout, un retraité qui cultive son jardin ou qui crée des liens familiaux avec les petits-enfants est quand même largement aussi utile qu'un prof de mathématiques financières ou un type qui produit des semences non reproductibles ou qui produit des tas de marchandises qui sont nocives.
Oui, au moins, il ne détruit rien. Le retraité ne détruit rien, celui-là.
Oui, non seulement il ne détruit rien, mais faire des tomates qui sont des tomates, c'est produire, hein. Et c'est produire quelque chose de très important. L'enjeu ici, ça c'est clair, hein, c'est l'enjeu central. Hein. J'ai insisté sur le fait de créer une population de réserve, ça c'est un enjeu important. J'ai insisté sur la possibilité dans laquelle nous sommes de financer l'investissement sur le mode de la cotisation sociale. Hein. Investir, c'est forcément prendre une partie de la valeur ajoutée que nous sommes en train de produire pour l'affecter à l'investissement. Cette valeur ajoutée, prenons-la sous forme d'une cotisation économique qui ira à des caisses d'investissement qui financeront l'investissement sans aucun taux d'intérêt puisqu'il n'y aura plus d'appropriation privée d'une partie de la valeur dans des accumulations financières. Donc nous pouvons parfaitement remplacer les marchés financiers par une institution qui existe déjà qui s'appelle la cotisation. Les marchés financiers, nous constatons tous qu'ils sont prédateurs, qu'il pique beaucoup plus d'argent qu'il n'en donne dans l'économie. Maintenant, alors, l'autre enjeu effectivement important, c'est la question du travail. C'est quoi travailler? Est-ce que les retraités travaillent? Est-ce qu'une femme qui utilise...
La réponse est non.
Eh bien, la réponse est oui. Hein, la réponse traditionnelle est non, oui, bien sûr, oui. Mais si nous répondons non, c'est parce que nous considérons que seul, si on est dans l'emploi, on travaille. D'ailleurs, on confond souvent emploi et travail. Chercher du travail, en réalité, ça veut dire chercher un emploi. Ne pas travailler, ça veut dire ne pas avoir d'emploi. Dans nos sociétés capitalistes, c'est l'emploi qui décide du travail. Et aujourd'hui, pour le pire, aujourd'hui, l'emploi empêche de travailler. Je voudrais que cette phrase ne soit pas prise pour une provocation. Ceux qui sont en emploi, là, toutes les enquêtes le montrent, ceux qui sont en emploi, qu'est-ce qu'ils disent? J'aime mon boulot, mais aujourd'hui, ce que je fais, c'est plus du boulot. Comme employé de banque, je rendais des services financiers. Maintenant, on m'oblige à vendre des paquets, donc je sais que c'est de la merde. Je les vends parce qu'il faut, mais il y a une forme de souffrance. Alors, je donne cet exemple-là, mais il y en a des milliers, bien sûr, hein, de situations qui montrent que dans l'emploi, aujourd'hui, on ne peut pas vraiment exprimer sa qualification. On ne peut pas du tout décider au travail, ça c'est clair, ce sont les employeurs qui décident à notre place et les actionnaires, mais on ne peut pas non plus faire le bon travail qu'on avait l'habitude de faire.
Là, il y a un changement énorme. C'est plus les actionnaires que les employeurs.
Bien sûr, c'est plus les actionnaires
que
les
employeurs. C'est cette pression qui est...
Bien sûr, mais justement, cette pression des actionnaires, nous pouvons la supprimer si nous remplaçons le financement par les marchés financiers, par un financement, par une cotisation économique. Ça, c'est vraiment fondamental. Je reviens donc à la question de l'emploi. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de chômeurs chez les retraités? Là encore, c'est une question qui vaut le coup d'être posée. Parce que les retraités, ils sont payés à vie. Et quand vous êtes payé à vie, Ça veut dire que lorsque vous avez pris votre pension, en quelque sorte, les qualifications de vos meilleurs postes, puisque c'est sur les 25 meilleures années qu'on calcule la pension dans le privé, la qualification moyenne de vos 25 meilleurs postes, puisque dans le privé, hélas, c'est les postes qui sont qualifiés, pas les personnes, hein, devient en quelque sorte la vôtre. Elle vous est attribuée sous forme d'un salaire à vie. Si on a un salaire à vie, c'est que la qualification n'est plus celle d'un poste. Si on a un salaire à vie, c'est que la qualification, c'est celle de la personne même. Et à toute qualification correspond un salaire, on a un salaire à vie. La raison du bonheur au travail de la moitié des retraités, pas tous, les 14,5 millions de retraités, il y en a la moitié qui sont dans la survie. Hein. Mais 7 millions, ça fait quand même l'équivalent du tiers des actifs occupés. Il y a 21 millions d'actifs occupés, un truc comme ça. C'est 10% de la population qui le disent. On n'a jamais autant travaillé, on n'a jamais été aussi heureux de travailler, qui vous montrent leur agenda. Pourquoi ? Parce que ça tombe tous les mois. Ils n'ont pas besoin de passer par la case marché du travail, la case employeur, la case emploi, la case dictature du temps. Ils sont libérés de tout ça. Enfin, ils peuvent travailler. Et c'est pour ça que je dis que les retraités travaillent, parce qu'ils ont un salaire à vie, hein, qui fait que leur activité est transformée en travail. Et c'est un modèle que l'on peut parfaitement transposer. Pourquoi est-ce qu'à 18 ans, on ne disposerait pas d'une qualification avec le salaire à vie, d'une qualification qui progressera au fur et à mesure des épreuves qu'on passera, pas automatiquement bien sûr, hein, mais qui fait que nous serons libérés du marché du travail. Vous voyez, un jeune aujourd'hui, il faut dire, bien sûr, nous allons compter tes années d'études dans les annuités. Ça, il faut le dire, évidemment. Mais il faut dire aussi... Et c'est là qu'est la vraie solidarité salariale. Pas cette foutue solidarité intergénérationnelle qu'on nous met tout le temps la main sur le cœur, c'est absurde tout cela. La solidarité salariale, c'est les retraités qui disent « Mais ce à quoi j'ai droit, le salaire à vie, qui est la cause de mon bonheur au travail, tu y as droit aussi. Nous avons tous droit à du salaire à vie, nous avons tous droit à avoir une qualification de 18 ans à notre mort. »
Mais vous arrivez au revenu universel, là.
Ah non, pas du tout. Le revenu universel, c'est un forfait universel. Et c'est un revenu, c'est pas un salaire. Un revenu, qu'est-ce que c'est ? Un revenu, c'est quelque chose que l'on tire d'un patrimoine. Alors, un revenu universel nous dit il y a un patrimoine collectif et nous avons un droit de tirage sur le patrimoine collectif. On ne sort pas de la logique de la propriété lucrative. C'est ça la propriété lucrative. Mmh. Je tire un revenu d'un patrimoine que je ne consomme pas, mais j'en tire un revenu. Donc, idéologiquement, c'est très mauvais. Ça ne nous fait pas sortir de la propriété lucrative qui est au cœur du capitalisme. Et maintenant, deuxièmement, dans le meilleur des cas, ce qui est proposé, c'est le SMIC. Hein, mais moi, je n'ai pas envie de passer ma vie au SMIC. Donc, je vais prendre un emploi en plus. Et le revenu universel, il va conforter le marché du travail. Parce que l'employeur va dire, bah, écoute, t'as déjà le SMIC, je vais encore pas plus te payer correctement. C'est ce qu'on observe partout, quand on peut cumuler une prestation fiscale et un salaire. On le voit avec l'intéressement, comme on dit, du RMI. Il n'y a que dans des cas, dans la Borsa Familia de Lula, en rural.
Hein,
c'est-à-dire là où il y avait vraiment rien. Des gens complètement exploités. Leur donner une petite ressource automatique et forfaitaire, ça les rend plus en mesure de négocier. Mais en ville, ça a eu l'effet inverse. En ville, les patrons ont dit bah, « vous avez déjà ça, en plus vous payez correctement ». Et c'est toujours ça, c'est un effet toujours dépréciatif sur les salaires quand on peut cumuler un revenu et un salaire. Mmh. Donc, pour toutes ces raisons, je suis absolument contre le revenu universel, mais en revanche, oui, si nous voulons que tous travaillent, ce qui nous mettons derrière les mots « plein emploi hein, », ça veut dire « du travail pour tous », c'est justement l'emploi qui nous empêche de travailler. Je reviens à ma petite fable. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de chômage chez les retraités ? C'est parce qu'ils sont payés sans emploi. Du coup, ben, il n'y a pas de chômage. De même qu'il n'y a pas de chômage dans la fonction publique, parce que la fonction publique, c'est une logique de qualification et non pas une logique d'emploi. C'est une logique du poste et non pas d'emploi. Donc, il n'y a pas de chômage. On est payé pour sa qualification. Donc, même si on n'a pas de poste, on reste payé, donc il n'y a pas de chômage. Donc, l'emploi génère le chômage. Donc, il décide finalement que certains n'ont pas droit au travail. Et l'emploi empêche de bien travailler ceux qui sont en emploi. Il faut maintenant passer à autre chose. Il faut attribuer à chacun une qualification avec le salaire irrévocable qui va avec, qui fait que nous allons enfin pouvoir exprimer nos compétences, notre appétit de participer au bien commun. Quand je vois des jeunes qui sortent de l'université avec vraiment un appétit énorme de participer au bien commun et qui doivent se transformer en demandeurs d'emploi, qui doivent maquiller leur diplôme.
Il y a un gâchis monstrueux.
Incroyable. Alors que s'ils...
Pas seulement les jeunes, d'ailleurs.
Mais bien sûr, pas seulement les jeunes. Mais je prends cet exemple-là parce que je le vis au quotidien. S'ils avaient un salaire liés à leur qualification, eh bien, ils pourraient immédiatement exprimer ce qu'ils sont.
Je crois que c'est ça l'essentiel. Hein. Tout votre travail, c'est de souligner cette chose évidente que nous savons tous, que nous ressentons tous, c'est le gâchis des énergies, des capacités. Absolument. De tous. On est tous devenus superflus.
Absolument.
Ce que dit Friot, ce qui est vachement intéressant, c'est que le système fonctionne remarquablement bien depuis plus de 50 ans. C'est-à-dire qu'on peut payer du travail libre. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un retraité ? C'est pas un inactif.
Conférence gesticulée de Franck Lepage.
Vous savez bien.
2010.
Ils disent tous qu'ils n'ont jamais autant travaillé, qu'ils ont enfin, qu'ils travaillent, qu'ils expriment leurs qualifications, qu'ils militent, qu'ils sont élus, qu'ils sont... D'accord. Un retraité, d'ailleurs, j'aime beaucoup la traduction espagnole du mot retraité. Je sais pas le dire en espagnol, la jubilación, jubilación, la jouissance. En espagnol, la retraite, c'est la jouissance. Et donc, évidemment, là où ça devient très dangereux et très révolutionnaire, c'est que si on arrive à comprendre ça, et à comprendre que le salaire est un rapport de force, le salaire n'est pas le prix d'un travail, c'est pas un prix le salaire, c'est un barème. Dans le cadre d'une lutte, d'un rapport de force, nous avons réussi à imposer des cotisations patronales, des conventions collectives. Tout ça, c'est un rapport de force. Et le salaire, c'est quelque chose de magique. Et bien, vous allez me dire, le salaire, c'est à la fois l'expression de notre aliénation, évidemment, puisque nous sommes dans un emploi, mais c'est aussi l'expression de notre libération. C'est là que ça se joue, c'est là que se passe la bagarre, c'est dans le salaire. Parce que si on peut payer du travail libre pour des gens qui ne travaillent plus sans mettre en danger l'économie, mais là, attendez, se dit Friot. On peut donc payer du travail libre pour des gens qui ne travaillent pas encore.
Ah, il va jusque-là, lui.
Le salaire jeune, c'est-à-dire donnons du salaire, pas du revenu. Donnons un salaire dès l'âge de 18 ans pour tout Français, d'accord, jusqu'à ce qu'il ait... Vous comprenez le truc ?
La même chose que la retraite, mais avant de bosser.
Et d'autre part...
Je traduis. Qui pense qu'il va y avoir une bonne retraite dans la salle ? Vous levez la main, ceux qui pensent qu'ils vont avoir une bonne retraite ? Ils ont gagné. Ils ont gagné parce qu'on en est tous persuadés. Il y a tellement de boulot médiatique là-dessus qu'on le croit.
Regardez, personne ne lève la main. Nous avons abandonné la bagarre avant de la mener. C'est-à-dire qu'on pense qu'on n'aura pas une vraie retraite. Mais pourquoi ? Tout le mouvement... Qu'est-ce qu'on attend pour continuer le mouvement historique que les gens ont fait avant nous ? Alors, dit Friot, nous sommes pris d'une vaste fatigue collective. Changer le monde était fatigant. Reprenons cette bagarre, on l'avait laissée.
Bernard Friot, vos prescriptions maintenant, vos conclusions à tout ça, qu'est-ce que vous conseillez ? Avec l'ironie, un peu d'ironie dans ma question, bien sûr.
Bien, c'est évidemment augmenter le taux de cotisation patronale. Il faut déjà augmenter le taux de cotisation patronale. Il faut déjà récupérer ce qu'on perd depuis 1996 avec le gel du taux. Il faudrait augmenter de 0,5 points par an le taux de cotisation. Donc on a perdu, en 14 ans, on a perdu 7 points. Les 7 points, comme par hasard, c'est l'augmentation des dividendes dans le PIB. Ils sont passés de 2 et quelques à 9, à peu près. Bon, eh bien, revenons à 2 pour les dividendes, supprimons les 7 points des dividendes, affectons-les à une hausse du taux de cotisation patronale. Voilà, ça c'est une proposition qui est très simple. Ça nous permet déjà de rattraper le temps perdu. Et ensuite, tous les ans, nous augmentons de 0,5 points le taux de cotisation patronale. 0,5 points de cotisation sur le salaire brut, hein, ça correspond à un quart de point de PIB, puisque le salaire brut, c'est à peu près la moitié du PIB. Donc, il faut affecter à une hausse du taux de cotisation patronale chaque année... un quart de point de PIB, alors que le PIB augmente en moyenne de 1,5%. Donc, il suffit de prendre le sixième du taux de croissance annuel pour l'affecter à la hausse du taux de cotisation patronale, et nous serons à 20% du PIB pour les pensions en 2050. C'est facile, ça ne pose aucun problème, sauf de se battre évidemment contre les actionnaires, mais encore une fois, ça c'est une autre proposition fondamentale, commencer à se battre pour remplacer les marchés financiers et les banques. Remplacer ces investisseurs qui n'en sont pas, hein, qui sont des prédateurs, par une caisse d'investissement financé par une cotisation économique. Autre chose, bien sûr, 100% du meilleur salaire. Hein. Il n'y a aucune raison que ce soit 75%. Le jour où j'ai 60 ans, ma qualification ne baisse pas de 25%. Bien sûr que j'ai droit à 100% de mon meilleur. Meilleur, pas forcément le dernier dans le privé, ce n'est pas toujours le dernier. 100% de mon meilleur salaire, parce que c'est lui qui exprime le mieux ma qualification. Et porté au SMIC, bien sûr, ça tout le monde le dit, hein, s'il est inférieur au SMIC. Et encore une fois, attribuer au fur et à mesure des années à ceux qui ont 18 ans une qualification et un salaire irrévocable. Et ça, progressivement, que toute la population soit dotée d'une qualification personnelle et d'un salaire irrévocable.
Est-ce que vous croyez que les syndicats et les partis partagent ces points de vue, ou est-ce que vous pensez pas plutôt qu'ils sont en défensive, qu'ils sont contre cette réforme, mais d'une manière défensive? Là, vous êtes dans un projet progressiste, on va dire, hein.
Dans un projet révolutionnaire, je pense qu'il faut mettre le mot sur le tapis. Parce que c'est un mot qui est tabou depuis maintenant 40 ans. Dieu sait si tous les tabous hein, dans ce domaine, on ne cause plus du tout d'autogestion, on ne cause plus de rien. Hein. Depuis 40 ans, nous sommes dans une espèce d'année de plomb. Hein. Il faut remettre toutes ces questions-là sur le tapis. Révolutionnaire, ça veut dire quoi? À condition d'ôter du mot révolution tous les oripeaux, dont y compris nous-mêmes, éventuellement, le déguisement,
oui.
Table rase, je ne sais pas quoi, etc. Il ne s'agit pas du tout de la table rase, puisque deux siècles de lutte sociale n'ont pas abouti à rien. Ça aboutit à la cotisation sociale, qui fait que la moitié du salaire reconnaît du travail non-marchand.
Ça, c'est important,
etc.
Le fait croire que toutes ces luttes n'ont pas abouti.
Mais bien sûr que si. Voilà. Nous avons des tremplins énormes. Ces tremplins, il s'agit de les prolonger. C'est ça, être révolutionnaire. C'est voir ce qu'il y a de subversif dans la réalité actuelle, non pas la chercher de je ne sais trop où, dans un ailleurs qui n'existe pas. C'est pas faire un pas de côté dans l'utopie. L'utopie est toujours en retard sur la réalité. C'est prolonger ce qu'il y a déjà de neuf, de vivant, dans le réel, sortir de nos discours misérabilistes, sortir de nos discours mortifères. Moi, j'assiste à des débats, pas ceux sur les retraites auxquels je participe, mais à des débats comme ça, au quotidien, hein, dans lesquels on est là tous là à se morfondre, à dire... on est quand même une génération qui pense que la génération en dessous aura moins de bonheur, moins de moyens, etc. C'est absurde. Il faut sortir de cet incroyable défaitisme collectif. Et pour cela... mettre en valeur ce qui est déjà expérimenté avec succès. On expérimente avec succès qu'on peut financer sans épargne des engagements massifs et de long terme, et qu'on peut financer non pas 18% du PIB comme aujourd'hui pour l'investissement, mais 25% du PIB. On crève de sous-investissement, on crève de mal-travail. Nous sommes dans l'impossibilité de donner notre mesure. C'est à ça qu'il faut maintenant s'attaquer.
J'exhibais ma carte senior sous les yeux goguenards des porcs qui partirent d'un rire obscène vers ma silhouette de sirène. Je suis vieille et je vous encule avec mon look de libellule. Je suis vieille et je vais crever. Un petit détail oublié. Les malades sont prohibés. On les jette dans les fossés. À moi qui n'apporte du blé, de la thune aux plus fortunés. Les vieux sont jetés aux orties, à l'asile, au château d'oubli. Voici ce qui m'attend demain, si jamais je perds mon chemin.
Merci, merci. Bernard Friot, l'enjeu des retraites, nouvelle diffusion de cet entretien avec les conférences gesticulées du camarade Franck Lepage, qui, vous avez compris, a monté un spectacle, conférences gesticulées, à partir du travail et des recherches de Bernard Friot. L'agenda des conférences de Lepage et de Sascop Le Pavé, c'est sur www.scoplepavé.org. Vous trouvez l'agenda de ces conférences. Merci à tous. L'enjeu des retraites, c'est aux éditions La Dispute. Vous trouvez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission avec un crayon à la main pour prendre des notes. Et vous pouvez également la réécouter sur le site là-bas.org.
Et puis il y a la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, Élodie Royer, Elisabeth Collet. L'émission a été réalisée par Jérôme Chélius et Franck Adhérer, préparée par Pierre-Yves Buteau et Stéphanie Fromentin. Attends vos messages sur le répondeur de la base où j'y suis au 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 15h pour la base où j'y suis. Et demain, vous vous en doutez, 11 septembre, il sera question du Chili. Tout de suite, on retrouve Hervé Pochon avec un temps de pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de pochon, mais ça ne va pas durer.
Alors, quel avenir international pour notre pays ? Ayant évoqué notre cap, je nous propose de faire nôtre une réponse brève mais forte d'Abraham Lincoln. Je cite : la meilleure façon de prévoir notre avenir, c'est de le construire. Et pour cela, mesdames et messieurs les ambassadeurs, le président de la République, le gouvernement et moi-même, nous vous faisons totale confiance. Merci.
Bonjour à tous et bienvenue à la 21e conférence des ambassadeurs où Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, vient de donner la feuille de route pour cette rentrée des classes. Alors, outre les 162 ambassadeurs, il y a quelques invités extérieurs, comme Pascal Boniface, le fondateur de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte, Pascal Boniface, d'écouter tous ces beaux discours ?
Qu'est-ce que ça m'apporte ? Bah, d'une part, il y a quand même des débats intéressants. C'est comme un colloque où on apprend des choses avec des participants qui généralement évitent la langue de bois. Donc il y a de vrais débats, comme CEOF, il y a des vrais débats.
Et alors vous, concrètement, qu'est-ce que vous avez appris là ?
Je pourrais de mémoire dire plusieurs choses. L'attitude de la Russie sur le dossier malien, j'ai appris des choses. L'attitude de l'Algérie, etc. Enfin, selon au déjeuner où j'ai assisté. Donc il y a toujours un tas d'informations. Mais c'est aussi quelque chose de plus informel, de nourrir la réflexion. Donc c'est pas immédiat, mais qui permet de rebondir ou de faire le lien un peu plus tard avec autre chose.
Et alors quand vous voyez l'intitulé « La France, puissance d'influence », ça prête pas à sourire ?
Ben, j'espère que non. C'est qu'au contraire, il vaut mieux y réfléchir. Parce que ça veut dire que la France, puissance d'influence, ça veut dire qu'on a perdu, heureusement, l'illusion de la grandeur de la France, dont on se gargarisait un peu. Et c'est dire, dans un monde qui est en mutation, où notre poids proportionnel se réduit de façon automatique, il faut trouver de nouveaux moyens d'action. Je pense que c'était un peu ce sens-là, de ce qu'on appelle le soft power en américain, la puissance d'influence. Et donc, comment réfléchir pour peser dans un monde où les évolutions naturelles ne nous sont pas favorables, aussi bien démographiquement qu'économiquement.
C'est un type bien, mon ami Pascal Boniface. C'est Jacques Maire, un député de l'opposition, qui vous le dit. Il fait avancer la science politique française au plan international.
Et alors, qu'est-ce que vous faites là, monsieur le député, vous ?
Ben, moi, je suis membre de la commission des affaires étrangères et je viens écouter avec grand intérêt ce qu'il se dit, ce que pensent nos collègues. Et c'est un moment de rencontre important pour mener la cohérence de la diplomatie française.
Et alors, par exemple, sur quoi vous n'êtes pas d'accord, Jacques Myard, en tant que député de l'opposition ?
Vous savez, c'est assez simple. Bon, premièrement, sur la Syrie, je ne suis pas d'accord. J'estime que les frappes seraient une faute. Une grave faute. Deuxièmement, je pense aussi qu'en ce qui concerne la construction européenne, il faut regarder les réalités en face. On est dans un véritable carcan européen, notamment avec l'euro. Et ça me paraît grave. Je pense que ce n'est pas une monnaie adaptée. Et c'est la raison pour laquelle nous avons perdu la compétitivité. Nous avons besoin d'Europe, mais nous n'avons pas besoin d'intégrisme européen.
Alors vous êtes pour le retour au franc ?
Mais vous savez, au XXe siècle, 59 monnaies uniques ont disparu. Eh bien, l'euro suivra le même sort. L'euro est devenu une machine infernale qui fait que les Européens se querellent entre eux. C'est ça la réalité.
Mais vous êtes de quel parti ?
Moi, je suis gaulliste depuis Vercingétorix.
Oh, vous n'êtes pas si vieux que ça, quand même.
Allez donc savoir.
Bon, enfin, en tout cas, je vous remercie.
À bientôt, bon courage.
Merci.
Vous faites ça pour France Inter ?
Voilà.
La radio subversive ?
La radio subversive.
Tu peux répondre aux questions de la presse en tant que grand Manitou de ces trois journées ?
Alors, Pascal Boniface va vous dire, avec son regard extérieur et son indépendance, combien cette manifestation a été réussie.
Ben, il me l'a dit.
Mais alors, je voulais savoir, en tant qu'organisateur de cette 21e conférence des ambassadeurs, qu'est-ce que ça représente pour vous ?
Bah, je pense que d'abord, c'est la fin de longs mois de préparation. On a eu quand même plus d'un millier d'invités, près de 90 intervenants et modérateurs, 17 séquences de table ronde, sans parler du programme off, parce qu'on a quasiment un programme avignonnais avec du in et du off.
Alors, qu'est-ce qu'il y a en off, par exemple ? C'est des trucs... très trash entre ambassadeurs.
Non, en off, on a des dîners avec des ministres. Par exemple, on en a eu un sur les Balkans occidentaux, sur l'Europe de la défense, sur les questions de migration et d'asile.
Mais ça a un côté un petit peu rentrée des classes des ambassadeurs. Quoi. On les convoque et puis il y a le proviseur qui leur dit « Bon, alors maintenant, vous allez rentrer dans vos pays, les respectifs, et puis vous allez prêcher la bonne parole.
Bah, » c'est un peu ça. C'est vrai que c'est toujours une conférence qui permet de capter les ambassadeurs à leur retour de vacances, moment où ils ne sont pas encore rentrés dans leur pays de résidence, et qui permet de les remobiliser. Donc de leur insuffler l'énergie, la motivation, le cap politique aussi, hein, qui était très clair dans le discours du président et du ministre.
Et alors, si j'ai envie d'être ambassadeur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?
Secrétaire général de la conférence des ambassadeurs.
C'est votre job ? Ah bah vous le laissez d'ailleurs, puisque vous partez à Vienne, je peux peut-être le prendre alors. Bah
écoutez, on va ouvrir les places, le concours, là, dans quelques mois.
Ah, moi, je ne suis pas candidat, donc c'est bon. Je ne suis pas candidat, vous pouvez y aller.
Merci, M. Boniface, vraiment, je suis très... très touché, si je peux avoir en plus votre parrainage. Bon, ben, bah, merci. Voilà. Et alors, est-ce qu'il y a un ambassadeur qui est un peu sympa et qui a une...
Ils le sont tous.
Ils le sont tous, oui. Bon, bien sûr. Mais alors, il y en a, on sent qu'ils ne veulent pas parler parce qu'ils ont peur de dire une bêtise.
Alors, un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain.
France Inter et le Théâtre de la Bastille présentent A Queen of a Heart, un spectacle musical de Juliette Deschamps avec Rosemary Stanley, la superbe chanteuse du groupe Moriarty. Un hommage en musique au glamour, à l'élégance, à l'intimité chaude et mélancolique des voix de Marilyn Monroe, Billie Holiday, Nina Simone, Marlène Dietrich. Retrouvez A Queen of a Heart du 11 au 15 septembre au Théâtre de la Bastille, dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Name, please.
James Picard.
France Inter présente Jimmy P, psychothérapie d'un indien des plaines. Le nouveau film d'Arnaud Desplechin avec Benicio Del Toro et Mathieu Amalric au cinéma le 11 septembre. Pour apaiser ses souffrances psychologiques, Jimmy P, un indien Blackfoot blessé pendant la Seconde Guerre mondiale, rencontre Georges Devreux, un ethnologue et psychanalyste français. L'exploration des souvenirs et des rêves de Jimmy est une expérience qu'ils mènent ensemble avec une complicité grandissante. Retrouvez Jimmy P dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Vous êtes bien à l'écoute de France Inter, il est 16h. Le retour des informations avec Laetitia Gaillet, bonjour.
Bonjour, la proposition russe de contrôler et détruire l'arsenal chimique de Damas a été plutôt bien accueillie aujourd'hui sur les marchés. Wall Street a ouvert la séance cet après-midi comme elle a fini hier en hausse, idem en Syrie. À Damas, l'offre russe a elle aussi été accueillie avec soulagement, beaucoup y voyant là le moyen de faire reculer la menace de frappes américaines. Damas a donc dit oui aujourd'hui à la proposition russe. Du côté des Occidentaux, on se félicite de voir que la fermeté a payé, mais on reste prudent. La France déposera demain une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU. Une résolution contraignante. En cas de manquement, le recours à la force sera possible. La Grande-Bretagne, qui dispose d'un droit de veto, s'est dite favorable à ce texte. La chasse aux islamistes continue en Égypte. Le ministère des biens religieux veut interdire maintenant de prêcher dans les mosquées 55 000 imams autoproclamés. Le ministre Mokhtar Goma dit viser les imams sans licence. Ce sont des fondamentalistes qui représentent une menace pour la sécurité nationale. En France, Jean-Claude Gaudin, content des sondages qui le donnent en tête des intentions de vote pour les prochaines municipales à Marseille, l'actuel maire UMP refuse en même temps pour l'instant de se déclarer officiellement. Je serai candidat, dit-il, mais un peu plus tard. Pour l'instant, Marseille a besoin de calme, faisant référence ainsi au récent règlement de compte et autres violences dans les hôpitaux. Et il faut, dit encore Jean-Claude Gaudin, que les socialistes désignent leur candidat. La primaire socialiste à Marseille est prévue du 13 au 20 octobre prochain. Le Parlement européen a adopté aujourd'hui un projet d'harmonisation sur les prêts immobiliers. Ça concerne en fait les règles relatives à l'information et à la protection des consommateurs. L'idée est de créer un marché unique dans ce domaine. Ce texte vise surtout à restaurer la confiance dans les marchés hypothécaires, mis à mal par la crise des subprimes en 2007 aux États-Unis. 230 des 360 personnes privées d'hébergement d'urgence à Clermont-Ferrand la semaine dernière ont été relogées ou ont reçu une proposition dans ce sens. Le bilan a été dressé cet après-midi par la préfecture du Puy-de-Dôme. Le retour à la normale, dit-on, devrait revenir rapidement maintenant, selon la préfecture. Il reste 102 personnes sans logement et elles ont encore passé la nuit dernière dans un gymnase. Au moins 40 anomalies de degrés divers ont été constatées au niveau de l'aiguillage et c'est ce qui explique en partie le déraillement du train de Bretigny sur Orge dans l'Essonne le 12 juillet dernier. 7 personnes sont mortes dans la catastrophe. Il réclamait 1 million d'euros à François-Marie Bagnier. Le tribunal correctionnel de Paris a débouté cet après-midi un ancien SDF. Michel Baldi et le photographe s'étaient croisés le 2 juillet 2011 sur les Champs-Élysées à Paris. Le premier faisait la manche avec un gobelet accroché à sa canne à pêche. François-Marie Bagnier avait voulu immortaliser la scène en le photographiant, mais le SDF lui aurait demandé ensuite d'effacer les clichés, ce que François-Marie Bagnier a refusé. Pas assez de preuves, a dit le tribunal, pour justifier sa décision. Enfin, l'éléphante qui a tué d'un coup de trompe ce week-end un octogénaire en Seine-et-Marne doit être envoyé dans une réserve d'Afrique du Sud. Demande émise aujourd'hui par l'association One Voice, qui estime en même temps que le pachyderme serait victime de mauvais traitements depuis une dizaine d'années dans le cirque où elle est censée jouer. Vous écoutez France Inter, il est 16h03.
Tous les samedis à partir de 20h, le grand rendez-vous live de France Inter, présenté par Vali.
Cette semaine dans Live Me Do au studio 105 de Radio France, les femmes et quelques garçons.
J'escalade un crassier, j'erre dans les banquises.
Avec la folie douce de Brigitte Fontaine. L'extravagance des sexy sushis. Les garçons des Girls in Hawaii en session acoustique. Et en exclusivité, Agnès Obel viendra nous interpréter son nouveau single.
Pour assister à l'enregistrement de l'émission, rendez-vous demain à partir de 18h devant la porte B de la Maison de Radio France.
Je peux compter sur vous ?
Live Me Do.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
France Inter.
La voix est libre.
La musique classique, c'est maintenant sur Inter avec Carrefour de l'Odéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Laetitia, on vous retrouve à 17h.
À tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Il y a des noms d'auteurs qu'on voudrait oublier, par exemple Romberg, je me souviens qu'on donnait les concertos de Romberg au conservatoire pour les concours et c'était vraiment une torture, c'était difficile, ça ne paraissait pas très beau. Et puis voilà qu'on peut réentendre des années après ce même Romberg au disque et puis finalement si c'est pas si mal que ça. Il faut dire que les violoncellistes, il y a longtemps, jouaient ça au conservatoire avec un accompagnement de piano un peu approximatif et là il y a un joli orchestre. Donc Romberg revient en faveur, certes il a écrit beaucoup de choses pour les élèves, pour les écoles, pour les conservatoires, donc c'est un peu rébarbatif, mais c'est quand même un musicien, et c'était un très beau violoncelliste né en 1767. Écoutez, si vous voulez bien, son divertimento sur des airs populaires autrichiens pour son instrument, le violoncelle et une guitare. Divertimento sur des chants populaires autrichiens de Bernard Tromberg, interprété au violoncelle par Lionel Cotet et à la guitare par Federico Dias. Et il avait un cousin, Bernard Tromberg, un cousin très doué lui aussi, Andreas. Et à 7 ans déjà, il faisait des tournées après les petits Mozart, après évidemment Wolfgang et puis sa sœur Nannerl. Ils ont aussi écumé l'Europe et ils jouaient l'un du violon, l'autre du violoncelle. Et ils se sont appelés à ce moment-là les frères Tromberg. Ils ont fait croire qu'ils étaient frères, mais peu importe. C'était une petite supercherie. Et après, ils ont épousé réellement deux sœurs, les deux filles d'un riche marchand, ce qui les a liées encore plus. Voici d'Andreas Tromberg, le violoniste, le final allegretto de son troisième concerto pour son instrument favori.